le dimanche de Pâques, le 13 avril 1950, une messe est célébrée dans la petite église à Tignes, dans les Alpes. Rien d'extraordinaire. Mais quelques jours plus tard, le 24 avril, l'église est détruite par le dynamite. Car si vous regardez cette photo, derrière la ville, vous voyez le barrage du Chevril, en construction depuis 1947. Et après qu'ils aient fermé la vallée s'est remplie d'eau. Et petit à petit, le village de Tignes s'est trouvé sous l'eau. Et quelques Tignens avaient accepté de vendre leur maison, leurs biens et de partir. Mais beaucoup ont résisté. Jusqu'à ce que les militaires arrivent pour les faire sortir, pour faire sauter l'église et les autres bâtiments. Depuis, EDF avait l'habitude de vider le réservoir tous les 10 ans afin d'inspecter le barrage. Et si vous regardez ces photos, vous pouvez toujours voir quelques traces du village de Tignes. Il est possible de voir les rues, quelques traces d'habitation. C'est possible de voir des ponts aussi. Et le récit biblique que nous allons lire ce matin raconte la destruction d'une autre ville. Quelques habitants ont aussi résisté, mais ils ont été sortis de force. Mais la raison pour la destruction de cette ville est bien différente que celle de Tignes. Elle a une pertinence pour chacun de nous. Donc je vous invite à ouvrir une Bible et merci de chercher, merci de tourner à la page 13 et nous allons lire le chapitre 19. Donc ça fait quelques semaines, quelques mois que nous lisons, que nous étudions le livre de la Genèse et aujourd'hui nous arrivons à Genèse chapitre 19 à la page 13. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il leur dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. « Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent, « Pousse-toi !» Ils ajoutèrent, « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès lors, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme ils s'attardaient, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour sauver la vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'éteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville. Elle est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. » Il lui dit, « Je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on l'on a donné à cette ville le nom de Tsoa. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoa. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorre. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisait ces villes, toutes les plaines, les habitants des villes, les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Lot quitta Tsoa pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses deux filles, car il avait peur de rester à Tsoa. Il habita dans une grotte avec ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux. Il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin de lui donner une descendance. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « J'ai couché la nuit dernière avec mon père. » Faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et va coucher avec lui afin que nous lui donnions une descendance. Et fit boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils, qu'elle appela Moab, et l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde, elle l'appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Et avant de dire plus, j'aimerais bien prier et je vais utiliser quelques mots du psaume 86 que Michael nous a déjà lu. Notre bon Père Céleste, nous te demandons de nous enseigner tes voies pour que nous puissions marcher dans ta vérité. Dispose notre cœur à craindre, pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions voir plus de ta bonté envers nous, plus de ton salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Premier titre pour ce matin, une ville jugée, une ville jugée. Donc il y a quelques semaines, nous avons vu trois visiteurs, en fait Dieu lui-même, qui sont allés chez Abraham. Et ils ont mangé un régal chez Abraham. Et là, Genèse 19, deux d'entre ces visiteurs arrivent à Sodome. En fait, on découvre que ce sont des anges. Ils arrivent aux portes de la ville. Et qui est là pour les accueillir? C'est Lot. C'est Lot, le neveu d'Abraham. Et Lot insiste pour qu'il vienne passer la nuit chez lui. Comme son oncle, Lot démontre de la bonne hospitalité. Mais la situation prend une tournure plus que dramatique. Avant que les visiteurs montent les escaliers pour aller au lit, toc, 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 la porte. Et devant la porte, toute la population de la ville. Le verset 4 le souligne, il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » L'arrivée des visiteurs a été remarquée, l'arrivée de ces étrangers a été remarquée et toute la ville est sortie avec le désir de les violer les deux visiteurs. Et Lot agit pour protéger ses invités. Il sort, il pense pouvoir négocier de façon crue. Il propose une autre façon d'apaiser les passions de la foule. Mais les habitants de Sodome savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils cherchent. Ils menacent Lot avec encore plus de violence. Et même quand les anges frappent la foule d'aveuglement, les habitants continuent à chercher la porte de la maison de Lot au lieu de rentrer chez eux vaincus. Et la ville est jugée. La ville est jugée pour son péché. Une fois que Lot et sa famille sont sortis, le jugement de Dieu tombe sur la ville. Le verset 24 le souligne. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisait ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. En fait, c'est depuis le chapitre 13 de Genèse que nous entendons parler du péché de Sodome, c'est-à-dire la révolte de Sodome contre Dieu. Et au verset 13 ici, nous lisons que le cri contre les habitants de Sodome est grand devant l'Éternel. Et donc, Dieu met fin au péché de Sodome. Dieu met fin aux pécheurs de Sodome de façon terrible, car Dieu ne ferme pas les yeux au péché contre les autres, et Dieu ne ferme pas les yeux au péché contre lui. Et comme à l'époque du déluge avec Noé, tout est détruit. Il n'y a plus de traces qu'on pourrait voir, comme pour le vieux village du Tigne. Et certains commentateurs suggèrent des moyens naturels pour cette destruction, Un commentateur dit « Il existe des dépôts de soufre et d'asphalte dans la région côtière de la mer Morte. » Selon certaines suppositions, l'ignition des gaz naturels par la foudre, associée peut-être à un tremblement de terre de la faille, aurait provoqué la conflagration avec une pluie de soufre incandescent et une épaisse fumée d'asphalte. Parfois, dans la Bible, on voit comment Dieu utilise des moyens naturels, entre guillemets, pour accomplir ses fins. Mais peu importe, le texte ici souligne que c'est Dieu qui envoie la destruction de la ville et jugé par Dieu. Et depuis, dans notre langage, Sodome est devenu un synonyme pour le péché, la révolte, le chaos. On parle aussi de la sodomie. Et dans la Bible, Sodome devient un synonyme pour le péché qui provoque le jugement de Dieu. Et quel est le péché de Sodome? Je pense que nous devons faire attention aux extrêmes, deux extrêmes, lorsque nous nous demandons quel est le péché de Sodome. D'un côté, nous aurions tort de limiter le péché de Sodome au péché sexuel, aux pratiques homosexuelles. La violence sexuelle que nous voyons ici n'est que la partie visible de l'iceberg du péché qui existait à Sodome. Ézéchiel 16, 49 parle de l'arrogance et de l'abondance de Sodome, qui n'a prêté main forte aux malheureux et aux pauvres. Donc, d'un côté, nous aurions tort de limiter le péché de Sodome au péché sexuel. Mais de l'autre côté, nous aurions tort de faire abstraction du désir de péché homosexuel que nous voyons ici. C'est ça qui provoque la violence des habitants de la ville. C'est ça qui provoque la proposition horrible de Lot. Et le témoignage de toute la Bible est que la sexualité est pour le mariage entre un homme et une femme. Et tout ce qui sort de ce cadre sort aussi du plan de Dieu pour la sexualité. Et donc ça revient à une révolte contre le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a donné la sexualité, le mariage, l'homme et la femme. Alors si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en réfléchir plus, les lycéens, les étudiants, venez samedi prochain. Sinon, j'ai commandé deux exemplaires de ce livre qui enseigne réellement la Bible au sujet de l'homosexualité. Auteur Kevin DeYoung, il y a deux exemplaires à acheter sur la librairie de l'église. Il y a même un chapitre là-dedans sur ce qui s'est passé à Sodome. Mais le plus important, c'est que quand nous voyons le jugement de Sodome, nous voyons un modèle du jugement de Dieu contre le péché, que ce soit pour l'arrogance, l'injustice, le péché sexuel, la violence. C'est un modèle du jugement de Dieu contre le péché. Tout ce que nous faisons de mal est un affront contre le Dieu qui nous a créés. Tout ce que nous faisons de mal est contre les autres et contre les autres créés à l'image de Dieu. Et comme nous avons vu la semaine dernière, Dieu est le juge de toute la terre. Il appliquera le droit, y compris le jugement contre mon péché, contre votre péché. Donc nous voyons une ville jugée. Mais nous voyons aussi des gens sauvés. Des gens sauvés parce que Lot et ses deux filles sont secourus. Deux fois, les anges disent à Lot, « Sortez, partez !» Au verset 16, « Comme les militaires ont dû faire sortir les habitants de Tignes, les anges doivent prendre Lot, sa femme et ses deux filles, par la main pour les faire sortir. » Et pourquoi? Parce que l'Éternel voulait l'épargner.
L'Éternel voulait sauver Lot.
Au verset 29, nous voyons comment Dieu sauve Lot grâce à Abraham. Dieu se souvient des promesses qu'il avait faites à Abraham. Il se souvient des prières d'Abraham. Et il sauve Lot. Et Dieu sauve aujourd'hui. Dieu sauve du jugement aujourd'hui. Je vous invite à prendre votre Bible et merci d'ouvrir à la page 747. 747, c'est la semaine du Bourget, donc ça tombe bien. 747, 1 Corinthiens 6, et je vais lire à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, à la page 747, je vais lire à partir du verset 9. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens à la ville de Corinthe. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. À cause de notre péché, nous ne pouvons pas connaître Dieu, nous ne pouvons pas faire partie de sa famille, de son royaume. Ni les habitants de Sodome, ni les habitants de Corinthe, ni les habitants du 92, ni moi, ni toi. Mais regardez le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. C'est là ce que vous étiez. Vous étiez comme les habitants de Sodome, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus. Et j'aime comment ça répète trois fois. Paul martèle cette nouvelle identité des chrétiens. Ils ne sont plus définis par leur péché du passé. Ils ne sont plus condamnés pour leur péché. Ils ne doivent plus craindre un jugement de Dieu. Ils ont été lavés, déclarés saints. Déclarés justes. Ils se sont sauvés, ils seront épargnés du jugement de Dieu. Et comment? Comme Dieu s'est souvenu d'Abraham pour sauver Lot, c'est au nom de Jésus. C'est grâce à ce qu'il a fait que les chrétiens sont sauvés. C'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, si vous avez reconnu votre péché, si vous avez fait confiance à Jésus, je vous invite à personnaliser ces mots. Vous pouvez personnaliser le verset 11. On peut lire, c'est là ce que j'étais. Mais j'ai été lavé, j'ai été déclaré saint, j'ai été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et si ce n'est pas encore le cas, si vous ne pouvez pas encore personnaliser ces mots pour vous, alors ce texte de Genèse 19 nous avertit. Paul nous avertit de ne pas nous tromper. Et comme les gendres de Lot, nous pouvons rire devant l'idée d'un jugement à venir. Nous pouvons rire devant l'idée de rejeter ce que notre société pense être normal. Nous pouvons essayer de résister comme les habitants de Tignes. Mais la Bible dit que ce récit de Sodome est là pour nous montrer que Dieu sait juger. Il sait aussi sauver. Il sait aussi sauver. Et donc, nous avons vu une ville jugée, des gens sauvés. On va finir avec une famille égarée. Une famille égarée. Nous avons rencontré Lot pour la première fois au chapitre 11 de la Genèse. Il avait perdu son père et donc il s'est attaché à Abraham. Ici, nous arrivons au creux de la descente de la vie de Lot. chapitre 12, Lot, il est avec son oncle Abraham, et il bénéficie des bénédictions d'Abraham. Chapitre 13, il s'est séparé de son oncle. Et on lit qu'il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Dans le chapitre 14, il est emporté par un roi qui vainque Sodome. Et au début du chapitre 19, on trouve Lot à la porte de la ville, là où les anciens, là où les responsables se mettaient. Et à la fin du chapitre 19, on trouve Lot dans une grotte, manipulé et abusé par ses filles. On est au creux de la descente. Mais Lot est sauvé du jugement. Et le Nouveau Testament le décrit même comme un homme juste. Mais sa famille est égarée de façon désastreuse. La femme de Lot, elle aimait tellement la ville de Sodome qu'elle ne peut pas s'empêcher de regarder en arrière. Car c'est là, à Sodome, où se trouve son cœur. Et donc elle est jugée avec Sodome. Et puis les filles de Lot, on dirait qu'elles sont tellement imbibées de la culture ambiante de Sodome, des mœurs de Sodome, que la seule solution qu'elles voient pour avoir des enfants, c'est de rendre leur père inconscient par l'alcool et puis de se coucher avec lui. On dirait qu'elles auraient pu au moins chercher leur oncle Abraham, chercher sa famille, chercher ses amis. Mais là, c'est comme si elles ne savent même pas qu'il existe d'autres personnes, d'autres hommes sur Terre. Tout ce qu'elles ont connu, est-ce que c'est Sodome, ce qui se fait à Sodome? Et donc le résultat sera deux nations, les Moabites et les Ammonites. Et dans la suite de la Bible, ce sont deux nations qui vont présenter un danger à Israël pour égarer les générations futures d'Israël. Et donc, c'est une famille égarée. Et ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, comme j'ai essayé de décrire. Il y a eu beaucoup de petites décisions. Lot s'est approché petit à petit à Sodome. Beaucoup de petites décisions qui ont éloigné Lot, Abraham, de sa famille et de Dieu, le Dieu d'Abraham. Beaucoup de petites décisions qui ont rendu la possibilité de connaître Dieu, de grandir en lui, de vivre pour lui, de plus en plus difficile. Et ça devrait nous avertir, ça devrait nous rendre vigilants. Les grandes chutes arrivent rarement du jour au lendemain. Quelqu'un qui abandonne la foi, ou une église qui quitte la foi évangélique, ou une grosse chute morale, ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais beaucoup de petites décisions qui éloignent de Dieu et du peuple de Dieu. Et donc, y a-t-il des petites décisions que vous êtes en train de prendre qui vous éloignent de Dieu, du peuple de Dieu? Des petites décisions aussi qui pourraient aussi éloigner votre famille de Dieu. Nous avons besoin d'être vigilants. Et nous avons aussi besoin des uns des autres pour être vigilants. Nous avons besoin des autres qui prient pour nous et, ou qui nous conseillent sur des décisions, qui nous avertissent. Et c'est une des raisons pour l'existence du système d'être membre de l'Église que nous avons ici. Ici, à l'Église de la Garenne-Colombe, on a un système d'être membre. Et si on devient membre, on est en train de dire: c'est ici mon église. C'est là où je m'engage. Et on est en train de dire: moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour m'aider à être vigilant, m'avertir contre ces petites décisions qui peuvent m'éloigner de Dieu et du peuple de Dieu. J'ai besoin de vous pour prier pour moi. Et ça marche dans les deux sens. Parce que si on dit: moi, j'ai besoin de vous, on est aussi en train de dire: et vous avez besoin de moi, et moi je vais prier pour toi, et je vais chercher à être vigilant, je vais essayer d'être courageux pour t'avertir, pour te poser des questions difficiles si c'est nécessaire. Parce que là, nous voyons ici une famille égarée. C'est un avertissement. C'est un avertissement pour nous. Une ville jugée, des gens sauvés et une famille égarée. On peut regretter la destruction du village du vieux Tine. Vous vous souvenez de ces photos de le joli village de Tine? Aujourd'hui, on peut admirer le lac créé par le barrage, l'électricité générée sans parler de la station de ski. Regardons la destruction de Sodome, nous voyons l'attitude de Dieu envers le mal. Et nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu ne ferme pas les yeux au mal, à l'injustice. Dieu juge le mal, le juge de la terre applique le droit. Et nous pouvons aussi admirer le fait que Dieu sauve. Il sauve ceux qui se tournent vers lui, ceux qui font confiance en Jésus-Christ. Et si nous nous sommes tournés vers lui, alors soyons vigilants pour rester accrochés à notre Seigneur Jésus. Soyons vigilants de ceux qui pourraient nous éloigner de lui, nous éloigner de son peuple. Je vais prier. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous reconnaissons que tout ce qui est dans la Bible est pour notre instruction, y compris ces récits qui sont difficiles à lire, tristes à voir. Merci de ce que toi, le juge de toute la terre, tu appliqueras le droit. Merci de ce que, en Jésus, nous n'avons plus à craindre ton jugement. Merci de ce que, en lui, nous sommes lavés, nous sommes déclarés saints, nous sommes déclarés justes. Et aide-nous en tant qu'Église, en tant que famille d'Église, à être vigilants, à aimer les uns les autres. Aide-nous à être vigilants à ces petites décisions qui peuvent nous éloigner de toi. Au contraire, nous puissions nous attacher à toi et aider les uns les autres à rester attachés à toi. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous prions. Amen. Amen.